Père, nous avons confiance en toi. Nous savons qu'à chaque fois que nous sommes réunis, Jésus est au milieu de nous.
Amen.
Nous savons que ton esprit qui donne la révélation est au milieu de nous.
Amen.
Et nous savons que ta présence est là.
Amen.
Nous avons confiance en toi. Nous savons que tu nous as donné ta parole pour qu'elle puisse nous éclairer et qu'elle nous amène à penser comme toi.
Amen.
Ce matin, Père, nous te demandons avec foi que tu inspires ce message. Que tu amènes la révélation de ta pensée.
Amen.
Que par ton esprit, tu fasses pénétrer ta parole à l'intérieur de nous. Qu'elle devienne indélébile et inoubliable. Et qu'elle amène une réelle transformation dans notre manière de voir.
Amen.
Dans notre manière de te voir.
Amen.
Dans notre manière de vivre.
Amen.
Parce que nous voulons que nos vies soient conformes à ta parole.
Amen.
Père, nous savons que tu le fais. Parce que tu nous as dit que tout ce que nous demanderons selon ta volonté, cela nous sera accordé.
Amen.
Nous savons que c'est ta volonté que nous vivions des vies conformes à ta parole.
Amen.
Et nous le croyons aujourd'hui, dans le nom puissant de Jésus.
Amen.
Amen. Je vais vous demander d'ouvrir dans Apocalypse chapitre 1. Nous servons un Dieu puissant. J'ai envie de commencer à chanter ce chant qui dit « Nous servons un Dieu puissant. Nous servons un Dieu puissant. Les anges se prosternent, laissez la terre l'adore. Nous servons un Dieu puissant. » Et en réalité, c'est une partie de cela que nous commençons à voir dans Apocalypse. Nous commençons à voir les anges se prosterner. Glory to God. Nous n'avons encore rien vu. Parce que quand nous allons le voir au ciel, nous allons voir des choses qui défient l'imagination humaine. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous commençons ce matin une nouvelle série. Et nous allons étudier les lettres de Jésus à l'Église. Le témoignage constant de la parole de Dieu, c'est que Dieu a une façon de penser, l'homme a une façon de penser. C'est pour cela, par exemple, qu'il nous a dit que l'homme regarde à l'apparence extérieure, mais Dieu regarde au cœur. Donc, nous comprenons tout de suite que nous n'avons pas toujours la même optique que Dieu, n'est-ce pas? C'est pour cela aussi que la parole de Dieu nous dit dans Proverbes chapitre 3 au verset 5, « Mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur et ne te repose pas sur ta propre intelligence. Cherche à connaître sa volonté dans tout ce que tu entreprends et te conduira sur le droit chemin. » En d'autres termes, il y a un chemin qui parfois nous paraît bien, mais ce n'est pas bien aux yeux de Dieu, où nous avons une perception des choses qui ne correspondent pas à la perception de Dieu. Et ce qui s'est passé, c'est que cet être suprême et supérieur a communiqué avec nous à travers Jésus. Et à travers Jésus, nous a amenés à la réconciliation avec lui de telle sorte que les choses qui nous séparaient de lui ont été enlevées. Mais à cause de cette séparation, nous avons acquis une façon de faire, une façon de penser qui ne correspond pas à celle de Dieu. Étant réconcilié avec lui maintenant, il va entreprendre un travail de transformation. Alléluia. Et transformation pas uniquement de nos circonstances, mais de notre personne. Et beaucoup de chrétiens sont constamment, d'ailleurs la majorité des chrétiens, implorent constamment Dieu pour la transformation de leurs circonstances. Mais implorent rarement Dieu pour la transformation de leur personne. Or, c'est notre personne qui intéresse davantage Dieu. Parce que lorsque notre personne est transformée, nos circonstances sont transformées. Et lorsque notre personne est transformée, nous sommes en mesure de vivre la réalité de la vie de Dieu que Jésus est venu nous donner. Glory to God. Et donc, ce que Dieu fait avec sa parole qu'il nous a donnée, c'est nous amener à voir sa perspective. Et dans tout ce que nous sommes en tant que chrétiens, nous devons constamment chercher la perspective divine. Alléluia. Cette perspective divine.
Perspective.
La perspective divine sur nous en tant qu'individus. C'est pour cela que je vous encourage souvent à vous présenter devant le Seigneur et dire, Seigneur, qu'est-ce que tu vois en moi qui ne te plaît pas? Et parfois, nous devons cesser de prier pour Jeannette. Nous devons commencer à prier pour nous. Qu'est-ce que tu vois en moi que tu as envie de changer? Ou qu'est-ce que tu veux mettre en moi qui n'y est pas et je t'invite à le déposer en moi? nous laisser Dieu nous ausculter, n'est-ce pas? Et de la même façon que Dieu fonctionne avec nous en tant qu'individu, il fonctionne avec nous en tant que groupe. Lorsque Jésus nous sauve, il nous sauve individuellement, mais ensuite il nous place en communauté. La vie chrétienne est une vie en communauté. Glory to God. L'église n'est pas une personne seule dans son coin qui aime Dieu. L'église, c'est le corps de Christ. C'est nous tous ensemble. Et ce mot ensemble est fondamental. Parce que la vie chrétienne est vécue ensemble, en communauté. Et nous le savons parce que Jésus a dit « Je bâtirai mon église », mais on s'est arrêté sur l'église, avec, comme nous disons en grand « E ». Donc, tant que nous sommes nés de nouveau, nous faisons partie de l'église, mais c'est tout. Nous adorons Jésus dans notre chambre avec l'Internet. Mais ce n'est pas le dessein de Dieu. Nous voulons la perspective divine. Amen. Et dans la perspective divine, nous voyons que Dieu s'intéresse à son église en tant que corps, où qu'il soit dans le monde, et à son église en tant qu'assemblée locale. Et quand nous voulons la perspective divine sur nos vies individuellement, mais nous voulons la perspective divine sur nous en tant qu'église. Nous voulons la perspective divine sur tout groupe dans lequel nous sommes impliqués. Vous avez une famille, vous avez besoin de la perspective divine sur votre famille. Où que vous soyez, d'abord ça commence avec vous. Et ensuite, votre famille, votre couple, qu'est-ce que Dieu pense? Qu'est-ce que Dieu dit à votre sujet? Qu'est-ce que Dieu veut pour vous? Ensuite, vous avez une équipe avec laquelle vous travaillez. Qu'est-ce que Dieu dit au sujet de votre équipe? Vous avez une équipe avec laquelle vous servez Dieu dans le ministère, équipe de louange, qu'est-ce que Dieu dit au sujet de votre équipe? Alléluia. Glory to God. Glory to God. Glory to God. Glory to God. Dieu aime que l'on se demande ce qu'il pense. Et Dieu ne se prive pas de nous dire ce qu'il pense. D'ailleurs, c'est pour cela que nous avons ces 66 livres. C'est Dieu qui nous dit ce qu'il pense. Pour que nous commencions à penser comme lui pense. Alléluia. Donc la parole de Dieu nous est donnée pour cela. Et Dieu qui est l'architecte de l'humanité, qui est celui qui détient toute sagesse et toute connaissance, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire parce que vous savez, quand vous êtes passé, les gens veulent toujours vos conseils. Et je leur demande souvent, est-ce que tu as prié? Non, mais je me disais que j'allais demander. Non, il faut d'abord aller demander à Dieu parce qu'il sait plus que moi. Vous n'êtes pas convaincus? Oui. Ah, glory to God. Il en sait beaucoup plus que nous. Et surtout ce que nous faisons, dans toutes les circonstances, donc qu'est-ce que Dieu pense? Et c'est la raison pour laquelle nous méditons et nous étudions sa parole, parce que sa parole révèle sa pensée. N'est-ce pas? Nous ne lisons pas pour chercher un verset pour nous tirer d'affaire lorsqu'il y a un problème. Nous lisons pour être conformes à la pensée de Dieu. Et nous constatons dans ce livre Apocalypse que Dieu, encore une fois, a pris soin de parler à son peuple et de parler à son église et de parler à des églises locales spécifiques. C'est quelque chose d'absolument extraordinaire. On n'y pense pas souvent. Quand vous lisez les épîtres sont des lettres écrites à des églises locales spécifiques. Et parfois, ça va dans des détails pas très agréables. Regardez les lettres aux Corinthiens. Tu vois ces gens-là, c'est chaud. Qu'est-ce qui se passait dans cette église? Ils disaient, ah, j'entends béni pour Abraham. Avant que Dieu commence à parler d'Abraham. mais ce sont des lettres qui sont écrites à l'église tout entière, mais d'abord à une église locale et très spécifique. Mais ce que nous négligeons souvent, ce sont les lettres que Jésus lui-même a écrites à l'église. Jésus a écrit une série de lettres. Il a écrit à cette église. Et quand nous étudions ces lettres, cela nous permet de commencer à voir comment Dieu pense de l'Église. Et la manière dont une Église locale doit fonctionner. Glory to God. Non pas la manière dont les dirigeants doivent fonctionner, mais dont l'Église doit fonctionner. Qu'est-ce que Dieu pense? Et ce qui est frappant ici, c'est le fait que Jésus nous regarde. Et nous allons voir ça un peu plus tard. Mais c'est merveilleux. Nous commençons dans Apocalypse. Aujourd'hui, nous posons simplement le fondement. Nous voulons voir ce qui se passait, comment est-ce que cette vision est venue. Et ensuite, nous allons passer aux lettres spécifiques. Au chapitre 1, au verset 1, il nous a dit ceci. Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, Celui-ci a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, soit tout ce qu'il a vu. La première chose que vous devez remarquer ici, c'est que il ne s'agit pas de la révélation de la fin du monde, mais la révélation de Jésus. Le personnage principal d'Apocalypse n'est pas l'Antichrist, mais Jésus. Gloire à Dieu. Et Dieu veut que nous voyions Jésus dans sa gloire, dans son action passée, dans son action présente et dans son action future. Nous allons étudier les trois premiers chapitres. Et dans ce premier chapitre, donc dans ce premier verset, il nous parle du fait que c'est la révélation de Jésus-Christ. En réalité, le mot apocalypsis dans le grec ne veut pas dire la fin des temps. Le mot apocalypsis dans le grec veut dire la révélation. Ça veut dire découvrir ce qui a été couvert. Révéler. Gloire à Dieu. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. Donc, c'est le Père qui a confié cette révélation à Jésus, qui ensuite l'a confié à un ange, qui l'a confié à Jean. C'est fort. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Et qui garde les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Alors, celui qui lit, pourquoi? Parce que dans le temps ancien, la majorité des gens n'étaient pas lettrés. Et dans l'église, ce qui se passait, c'est qu'il y avait de la lecture publique de la parole de Dieu. Il y avait une personne qui lisait et les autres qui écoutaient. Donc, d'ores et déjà, nous savons qu'il y a une bénédiction. D'ailleurs, c'est le seul livre de la Bible où il t'annonce dès le départ qu'il y a une bénédiction pour ceux qui lisent et bénédiction pour ceux qui écoutent. Rien que le fait d'écouter cette lecture de matin, ce matin, vous êtes déjà.
Amen.
Vous êtes déjà.
Béni.
Vous êtes déjà.
Béni.
Mais ça va plus loin. Parce qu'il nous dit ensuite, et qu'il garde les choses qui sont écrites. Donc nous allons lire, nous allons écouter, nous allons garder les choses qui sont écrites. Nous allons voir ce que Jésus dit aux églises, nous allons apprendre et nous allons garder les choses qui sont écrites. Alléluia. Car le temps est proche. Jean aux sept églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. Et de la part des sept esprits qui sont devant son trône et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles.
Amen.
Au siècle des siècles.
Amen.
Alléluia. Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui.
Amen.
Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Ce petit passage que nous venons de lire est un condensé de théologie. Un condensé de théologie. La première chose que vous devez savoir, c'est que pour comprendre Apocalypse, vous devez connaître l'Ancien Testament. Parce qu'il y a beaucoup de références à l'Ancien Testament. Beaucoup de références aux livres prophétiques. Nous allons voir quelques exemples. Beaucoup de références à Daniel, Ézéchiel, Zacharie. Et beaucoup de références à des choses que vous ne comprendrez pas si vous ne connaissez que le Nouveau Testament. Mais ce qui est merveilleux, c'est que Dieu veut que nous comprenions. Ce n'est pas une révélation, ce n'est pas une couverture, c'est une révélation. Gloire à Dieu. Une révélation de Jésus. Cette révélation a été donnée à l'apôtre Jean. Le témoignage des pères de l'Église est constant que ce Jean dont il est question, c'est l'apôtre Jean. Et l'apôtre Jean était exilé sur l'île de Patmos. L'île de Patmos est à une trentaine, je crois, de kilomètres de la côte ouest de la Turquie, ce que à l'époque on appelait l'Asie mineure. Quand on parle d'Asie ici, il ne s'agit ni de l'Inde ni de la Chine. Il s'agit d'Asie mineure, la région où se trouve aujourd'hui la Turquie. N'est-ce pas? Et il y avait beaucoup d'églises dans cette région. L'église, vous connaissez, nous avons beaucoup parlé de l'église d'Éphèse ici, on fait partie. Et il y a d'autres églises que nous allons voir. L'apôtre Jean, donc, cette lettre a été écrite aux alentours de l'année 95. Et à cette époque, la majorité, sinon tous les apôtres étaient déjà morts. Et l'histoire nous dit qu'ils sont tous morts de mort violente. En d'autres termes, ils ont été massacrés pour leur foi. Dans des endroits différents, à des moments différents, mais ils ont souffert pour Jésus. Amen. Alléluia! Abba House, on n'a pas peur de souffrir pour Jésus. Heureusement pour vous, en France, on ne meurt pas pour sa foi. Elle ne fait que nous insulter. Le tout cœur. Thank you, Jesus. Alléluia! Je suis en train de lire l'histoire d'un frère chinois qui lit en albanais pour Jésus. C'est vous. Je vais d'ailleurs voir s'il y a une traduction de ce livre parce que je pense que c'est important pour nous de la voir. Mais bon, c'est parce qu'il y en a parté. Donc l'apôtre Jean était sur l'île de Patmos, il était exilé. C'est une petite île qui est devenue depuis un lieu de tourisme, bien entendu. Et il y a un monastère qui est érigé sur la cave où il aurait reçu ses révélations. Il était exilé sous le règne de l'empereur Domitien qui avait décidé d'en finir avec les chrétiens. Ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'à Constantin, la foi chrétienne était illégale. Les chrétiens n'avaient pas le droit d'être chrétiens. Et en fonction des empereurs, les situations changeaient, mais sous certains empereurs, rien que le fait d'être appelé chrétien voulait dire que vous étiez criminel. Et beaucoup des pères de l'église, d'Aurore Origène, etc., ont écrit une défense Justin Martyr, qui d'ailleurs est appelé Justin Martyr parce qu'il a souffert de martyr, pour ses peines, la défense de la foi chrétienne, ont écrit pour expliquer ce que croient les chrétiens, pour leur dire on n'est pas des gens mauvais. Lorsque vous lisez, par exemple, certains historiens, ils vont parler des chrétiens comme des gens qui font des abominations. Parce qu'ils se disent, ils se livrent au sacrifice humain dans leur réunion. Des choses inimaginables. Alors aujourd'hui, on dit, oui, on nous appelle des sectes. Vous n'imaginez pas ce qu'on disait des chrétiens à l'époque. Vous n'imaginez même pas. Parce qu'on prend la Sainte Cène, le corps et le sang de Jésus, les gens estimaient qu'on se livrait à des orgies et à la consommation d'êtres humains. Enfin, des choses inimaginables. Inimaginable. Et les chrétiens aussi étaient appelés des athées. Pourquoi? Parce que leur Dieu était invisible. Parce qu'eux avaient des dieux visibles. Ils avaient des statues et il fallait brûler l'encens. Et après, il y a eu le culte à l'empereur. Donc, César devait être adoré. Il fallait brûler l'encens. Il y avait même des lieux publics où on ne pouvait entrer qu'après avoir brûlé l'encens pour César. Donc cela... C'était très difficile pour les premiers chrétiens de vivre dans des endroits comme cela parce qu'ils étaient de fait exclus de certains lieux parce qu'ils n'allaient pas faire ce qu'il fallait pour y avoir accès. Et beaucoup ont été tués pour leur foi parce qu'il fallait qu'ils déclarent que César était Seigneur et ils ne pouvaient pas déclarer que César était Seigneur parce qu'il n'y avait qu'un seul Seigneur, c'était Jésus. Les Romains étaient très éclectiques. Ils avaient une foultitude de dieux et ils acceptaient tous les dieux des peuples qu'ils avaient conquis. Le problème, c'est que les Juifs et les chrétiens croyaient en un seul Dieu et ne voulaient accepter les dieux de personne d'autre. Donc, ils étaient honnis et bannis. Et pendant longtemps, d'ailleurs, ils ne voyaient pas du tout la différence entre le judaïsme et le christianisme. Pour eux, les chrétiens étaient une secte du judaïsme. Et beaucoup de confusion, aussi beaucoup de persécution. Et là, l'apôtre Jean, qui d'ailleurs serait le seul à mourir de mort naturelle, était donc exilé sur l'île de Patmos. Ils avaient essayé de le brûler dans une grosse marmite d'huile chaude. Il a survécu et après ils l'ont exilé. Et là, les églises donc souffrant et vivant des situations difficiles en fonction des lieux, dans d'autres lieux avaient plus ou moins la liberté de culte, mais il suffisait que quelqu'un les dénonce comme chrétien pour que les problèmes commencent. Et donc vous pouvez imaginer la mentalité de ces gens. Pour eux,
accepter Jésus, c'était accepter une possible condamnation à mort. De nos jours, accepter Jésus, oh, oh, c'est accepter de quitter mon péché. Oh, oh là là, c'est trop dur. Ça veut dire que si je deviens chrétien, je ne vais plus pouvoir fumer comme je veux et me saouler tous les week-ends. Non, c'est trop dur. On va vivre comme ça. Ma prière constante, c'est que Seigneur, ce que tu as fait dans ces premiers disciples, fais en nous. Je ne comprends pas. Nous avons besoin de voir Jésus comme ils l'ont vu. Maintenant, ce ne sont pas des saints, entre guillemets, dans le sens terrestre du terme. Parce que certains ont renié le Seigneur, certains ont préféré, ouf, là, là, c'est trop dur. Et tous n'ont pas été parfaits, mais il y a des gens qui ont tenu bon, il y a des gens qui sont morts pour leur foi. Alors, on nous raconte l'histoire d'une femme qui avait 7 enfants, elle et ses 7 fils ont été tués parce qu'ils ont refusé de renier Jésus. Vous comprenez ce que je veux dire? Et dans cette atmosphère de persécution, de difficulté, l'Église a continué à grandir. L'Église a continué à s'étendre. L'Église a continué à prospérer. Les gens continuaient à se convertir. Mmh. Et Dieu continuait à agir.
Amen.
Mais petit à petit, les apôtres mouraient, il restait que Jean. Et on pouvait imaginer, il avait déjà un certain statut. Parce que quand vous voyez ici comment c'est écrit, révélation de Jésus-Christ, et pas le fait de son serviteur Jean. Et manifestement, tout le monde le connaissait. Et donc, il parle des choses qu'il a vues. Mais il n'est pas parti sur cette île pour recevoir des visions. Il est parti parce qu'il a été exilé. Vous savez, quand le diable veut faire du mal, Dieu a quelque chose d'extraordinaire qui va vous arriver. Si vous restez dans la foi, si vous restez dans la joie, si vous restez dans la paix, si vous ne décidez pas, oh Seigneur, franchement, je te sais, voilà tout ce qui m'arrive, franchement, c'est moi ce que je vais faire, comme les autres. Nous avons signé. Nous n'avons pas déchiré le contrat.
Amen.
L'apôtre Jean n'a pas déchiré son contrat. Donc, il était là, dans cet endroit un peu perdu, en réalité, il n'y avait rien. Aujourd'hui, il y a des villes, des villages. Il y a 400 églises sur cette île. Si l'apôtre Jean pouvait voir nos jours, ce jour, avec 400 églises dans cette île, il était exilé, il aurait été encouragé. Mais il y a quelque chose peut-être que nous allons voir qui va quand même nous amener à réfléchir. Et ce qu'il raconte ici, ce n'est pas une lettre qu'il a décidé d'écrire. Ce sont des visions et des révélations que le Seigneur lui a données directement. Et c'est très important d'y faire attention. Et c'est pour ça qu'il déclare la bénédiction sur ceux qui vont écouter, sur ceux qui vont lire et sur ceux qui vont garder ce qui est écrit. Alors verset 4, il nous dit que c'est une lettre aux 7 églises qui sont en Asie. En Asie mineure, comme vous avez entendu, vous le connaissez, les églises, il y a Éphèse, Pergame, Smyrne, Thyatire, Sardes, Laodicée et Philadelphie. Je les ai effleurés rapidement la semaine dernière. La question qui se pose est celle-ci. Pourquoi ces 7 églises? Sachant qu'il y avait d'autres églises. Il y a par exemple l'église de Jérusalem. Est-ce qu'elle existait encore à cette époque? Parce que c'était après la destruction de Jérusalem, la destruction du temple en 95. Il y avait d'autres églises qui existaient. L'apôtre Paul a écrit à l'église de Corinthe. Il y avait l'église de Rome, par exemple. Et pourquoi Jésus a choisi cette église? Quand on regarde, et on va regarder cela, ce que Jésus dit à ces 7 églises, on commence à voir que ces 7 églises, en fait, sont représentatives de toutes les églises. Il ne s'agit pas de dire, nous sommes l'église de Philadelphie, alors votre église à vous, c'est l'église de Laodicée. Et les chrétiens se sont servis de ça pendant des années. Jésus ne nous a pas donné ces lettres pour cela. Il nous a donné ces lettres pour que nous puissions nous inscrire nous-mêmes. Et dans chaque église, court le danger de se retrouver dans la situation de l'église de Laodicée. Chaque église a le potentiel d'être l'église de Philadelphie. N'est-ce pas? Il y a des gens qui pensent que ce sont des âges dans l'histoire de l'église. Je n'en suis pas convaincue du tout. Qu'il y a une période où l'église était l'église de Philadelphie. Il y a une période où l'église était l'église. Et que notre période, c'est l'église de Laodicée. Mais je n'en suis absolument pas convaincue parce que je pense que c'est ce que Jésus nous montre ici est applicable dans tous les siècles. tous les siècles. Donc c'est, et comme nous allons voir dans Apocalypse, si vous lisez, et je vous encourage à lire jusqu'à la fin, vous allez voir que le chiffre 7 revient constamment. C'est quelque chose, en quelque sorte, que nous avons hérité du judaïsme, et le 7, c'est le chiffre de la perfection. C'est le chiffre de la totalité. Et lorsque la question du 7, nous voyons qu'il est question de quelque chose dans sa totalité, dans sa globalité. Et ici, les 7 églises représentent les églises, toutes les églises. Mais ces églises se trouvent plus ou moins dans la même région. Et quand vous quittez Patmos, vous arrivez à Éphèse, vous arrivez sur le continent, là où le lieu se trouve la Turquie aujourd'hui, vous arrivez à Éphèse, vous montez au nord et vous continuez, vous descendez, vous revenez jusqu'à Éphèse, vous faites le tour de ces 7 églises. Et elles n'étaient pas très très loin les unes des autres. Certaines étaient des grandes villes, d'autres un peu moins. Nous allons voir les caractéristiques des églises plus tard. Mais simplement pour que nous puissions saisir que c'est une lettre qui nous est écrite. Ou ce sont des lettres qui nous sont écrites. Et par ailleurs, ce que Jésus a demandé à ce que ces lettres soient lues dans toutes les églises. Donc vous imaginez les églises, quand vous arrivez à Laodicée et qu'on commence à lire la lettre de Philadelphie et la lettre de Smyrne, vous êtes là. Aïe, n'est-ce pas? Et nous, à Abraham, nous allons être aïe. Merci Jésus. Oh, alléluia, je prends note. Amen. Nous allons garder ces choses. Est-ce que vous allez garder ces choses?
Je vais garder ces choses.
Nous allons garder ces choses. Donc, il déclare la grâce et la paix de la part de celui qui est, qui était et qui vient. De qui s'agit-il? Du Père, de Dieu. Yahweh, dans l'Ancien Testament, c'est ce que l'on disait constamment de Dieu. Je sais, c'est un mais il s'agit de Jésus. Je vais vous dire, dans Ésaïe 44, il nous a dit ceci. Dieu parle. Ésaïe 44, verset 6. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier. Et hors moi, il n'y a point de Dieu. Donc, va de même dans Ésaïe 48. Écoute-moi, Jacob et toi, Israël, je t'ai appelé, c'est moi qui suis le premier, c'est moi qui suis le dernier. Ma main a fondé la terre et ma droite a étendu les cieux. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de nous inviter à voir la source de cette révélation. Donc ici, nous voyons la Trinité. C'est très intéressant. C'est comme cela que la Bible nous présente la Trinité. Pas en traité de théologie sur la Trinité, mais nous présentons le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ici, nous voyons la Trinité. La question de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Pourquoi il est question des 7 esprits? Parce qu'il y a 7 esprits distincts. Non, le Saint-Esprit, les 7 caractéristiques du Saint-Esprit. Ésaïe nous parle du Saint-Esprit comme l'esprit de sagesse, de révélation, l'esprit de... Vous vous souvenez? Exactement. 7 caractéristiques du Saint-Esprit. 7 actions du Saint-Esprit. Et il continue, et de la part de Jésus-Christ. C'est pour cela que nous savons que quand il a parlé de celui qui était, qui est, qui vient, il ne parlait pas de Jésus. Là, il parlait de Dieu, le Père Yahweh, dans l'Ancien Testament. Et ici, il parle de la part de cet esprit, du Saint-Esprit, donc, et de la part de Jésus-Christ, la Trinité. Le témoin fidèle, le témoin fidèle, le témoin, c'est un titre pour le Messie. Le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. Ah, ça ne fait pas plaisir, ça. Le prince des rois de la terre. Toute royauté, toute autorité est assujettie à Jésus. Alléluia. Alléluia. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il déclare à qui la lettre est écrite. D'où vient la lettre? Qui a écrit la lettre? Enfin, cette lettre, cette révélation. Et il ne peut pas s'empêcher de déclarer la louange de Dieu. Et ça, c'est quelque chose que j'aime. Quand vous lisez la parole de Dieu, tout d'un coup, il y a une déclaration de la grandeur de Dieu. Et vous avez l'impression que ce n'est pas dans la suite logique de ce qui est en train d'être dit, mais vous sentez l'élan de cœur de l'apôtre qui, en parlant des merveilles de Dieu, ne peut pas s'empêcher de commencer à nous glorifier. Alléluia. Et quand nos cœurs sont remplis de la parole de Dieu, nous ne pouvons pas nous empêcher de commencer à nous glorifier. Et tout d'un coup, il commence à déclarer à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Et là, il positionne déjà l'église. À qui est-ce que cette lettre est écrite? Elle est écrite à l'église. Elle est écrite à différentes églises locales. Elle est écrite à des personnes qui ont été délivrées.
Amen.
Est-ce que vous en faites partie?
Amen.
Des personnes qui ont été délivrées. Des personnes qui sont aimées. Et Et c'est important de positionner cela dans le cadre de l'amour de Dieu. C'est dans son amour que Dieu nous dit ce qui est bon. C'est dans son amour qu'il nous dit ce qui n'est pas bon. L'amour, il nous aime. Et il nous a aimés. Et il nous aimera toujours. Oh, God is so good. Et celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Vous savez, dans l'Ancien Testament, lorsque vous lisez les prophètes, vous allez voir l'image du Messie comme roi. Vous allez aussi voir l'image du serviteur qui souffre. Et les prophètes eux-mêmes n'étaient pas nécessairement... ne comprenaient pas nécessairement comment les deux pouvaient aller ensemble. N'est-ce pas? Mais quand on vient dans le Nouveau Testament, on voit comment les deux vont ensemble. Dans l'Ancien Testament, il y a la promesse de Christ. Dans le Nouveau Testament, dans les évangiles, il y a la réalité de Christ qui se manifeste comme un être humain. Dans les épîtres, vous voyez Jésus révélé dans son Église. Et dans Apocalypse, vous voyez Jésus révélé dans sa gloire. Alléluia. Et c'est comme ça que quand il est venu sur terre, comme ce serviteur qui a souffert, il a repris ensuite sa gloire. Nous allons voir la description qui est faite de lui ici. C'est extraordinaire.
Amen.
C'est pas extraordinaire. Glory to God. Et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Ce que l'apôtre Jean est en train de faire ici, c'est déjà expliquer qui est cette personne qui m'a parlé, qui est cette personne que je vais décrire et qui êtes-vous par rapport à nous. Il nous a aimés.
Amen.
Il nous a délivrés.
Amen.
Il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Et si vous ne connaissez pas l'Ancien Testament, vous n'allez pas comprendre à quel point c'est fort le fait qu'il ait fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Sous l'Ancienne Alliance, il y avait une séparation de rôles. Il y avait les rois et il y avait les sacrificateurs. Et ça ne se mélangeait pas. Deux personnes seulement étaient et rois et sacrificateurs. Melchizedek et Jésus. Et dans Hébreu, il nous explique le fait que Jésus était souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. Alors dans tout l'intervalle, vous avez des rois et vous avez des sacrificateurs séparés. Et il y a un roi qui a essayé de devenir sacrificateur. Et pour ses peines, il a découvert le blé. Parce qu'il a usurpé une fonction qui n'était pas la sienne, le roi Ozias. Il est entré un jour dans le temple parce qu'il était un grand roi. Il était béni de Dieu, il aimait le Seigneur. Il avait beaucoup de conquêtes, il avait agrandi le royaume. C'était quelqu'un de fort. Il était dans le style de David, pas autant de grandeur que David, mais quelqu'un avec ce genre de carrure. Donc le roi Ozias s'est oublié. Et un jour, il est entré dans le temple. Et il a commencé, il a voulu offrir l'encens. Et les prêtres sont sortis et ont eu une confrontation avec lui. Et lui ont dit qu'il n'avait pas le droit de faire ça. Et lui, au lieu de se repentir, et ça c'était le grand fort de David, il savait se repentir. Il faisait son travail, l'Éternel, il se couvrait de cendres. Et le roi Ozias, parce qu'il était le grand roi Ozias, a voulu une confrontation, il a réagi contre les prêtres et Dieu l'a fait. Il a découvert de lui-même.
Mais avec la venue de Jésus, la donne a changé. En étant délivré par le sang de Jésus, en étant aimé par Jésus, en étant pardonné, il fait de nous un royaume. Il fait de nous comme Jésus. Nous avons cette même fonction de roi et de sacrificateur. C'est absolument extraordinaire. Et quand nous commençons à méditer sur l'ancienne, sur la nouvelle alliance, sur ce que Jésus a fait, la différence que Jésus a fait, on ne peut que, comme l'apôtre Jean ici, déclarer à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Des sacrificateurs sont des gens qui offrent des sacrifices agréables à Dieu. des louanges, l'adoration, le service de leur vie, tout leur être au service du roi, et qui se tiennent consacrés, séparés de la pollution. Les sacrificateurs sur l'ancienne alliance devaient être séparés de tout ce qui polluait. Oh, God is so good. God is so good. Yes. Et au verset 7, il continue dans cet émerveillement devant la personne de Christ. Il déclare, voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra, tous ceux qui l'ont percé et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Et ici, il fait référence à Daniel. Il fait référence à Daniel. Daniel chapitre 7. Daniel chapitre 7, il y a une vision. Daniel a une vision. Il a une vision de la fin des temps. Et dans cette vision, il voit l'ancien des jours. Et dans cette vision, il voit, au verset 13, il voit, et voici sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Souvenez-vous, un des titres que Jésus se donnait souvent, c'était le fils de l'homme. Et bien sûr, c'était dans son humilité parce qu'il a pris la forme de l'homme, mais surtout, c'était un titre messianique. Daniel parle du fils de l'homme. Et qu'est-ce qui arrive au fils de l'homme? Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Il est venu sur les nuées. Et ici, l'apôtre Jean déclare, voici, il vient avec les nuées. Jésus lui-même a annoncé dans Matthieu 24, 30, alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Alléluia! Est-ce que vous servez un Dieu merveilleux? Est-ce que vous servez un Dieu puissant? Jésus reviendra? Dans sa gloire. Alléluia! Nous avons des prémices ici avec la vision de l'apôtre Jean. Jean est émerveillé. Il déclare que toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Encore une référence ici à Zacharie, Zacharie chapitre 12, qui prophétise que tous ceux qui l'ont percé vont le voir. Extraordinaire. Et ici, nous changeons. Il y a quelqu'un d'autre qui prend la parole et qui dit ceci. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Celui qui est et qui vient, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Alléluia. 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 Lorsque nous commençons à méditer ces premiers chapitres d'Apocalypse, nous avons une toute autre vision de Jésus. Une des grandes difficultés des chrétiens, c'est qu'ils ont une vision de Jésus qui ne correspond pas à la réalité. Ils ont une vision de Jésus crucifié. La vision de Jésus crucifié nous amène à nous rendre compte de ce qu'il a fait pour nous, mais nous avons besoin d'une vision de Jésus glorifié. Amen. L'apôtre Jean avait vu Jésus ressuscité, mais n'avait pas vu Jésus glorifié. Rappelez-vous dans Philippiens, il nous a dit qu'il s'est dépouillé et il s'est rendu comme un esclave. Il a pris la forme d'un esclave. Il a laissé ses attributs divins, il a laissé sa gloire divine et il est venu sur terre, il est apparu comme un homme, comme vous et moi, comme un être humain. Et quand les gens le voyaient sur la terre, ils ne voyaient pas sa gloire, sauf au moment de sa transfiguration. Rappelez-vous, au moment de sa transfiguration, les trois qui étaient avec lui étaient hébétés. Et Pierre ne savait plus quoi dire. Seigneur, si tu veux, on peut construire trois tentes. Ça vous arrive des fois de ne pas savoir quoi dire. Ils étaient hébétés. Ils n'en revenaient pas. Ils le voyaient dans cette gloire. Mais ce n'était rien en comparaison avec ce que Jean allait voir. Et quand vous lisez Daniel, vous voyez les visions de Daniel. Daniel, à chaque fois, il était sans force. Il était totalement dépassé. Nous sommes des êtres spirituels. Il y a une dimension spirituelle, des choses de Dieu dans laquelle nous devons vivre. Et qu'est-ce que l'apôtre Jean nous explique ici? C'est merveilleux. C'est merveilleux.
C'est merveilleux.
Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos. À cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte. Maintenant, si vous êtes charismatique, chrétien, vous n'avez pas besoin qu'on vous explique ce que c'est être saisi par l'Esprit. N'est-ce pas? J'étais saisi par l'Esprit le jour du Seigneur. Il y a des chrétiens qui ont besoin qu'on leur explique ce que c'est que d'être saisi par l'Esprit. Il y a des gens qui ne sont même pas chrétiens qui comprennent la réalité du monde spirituel. C'est quelque chose d'extraordinaire. Vous êtes un être spirituel. Et Dieu peut vous donner la possibilité de voir dans le monde spirituel. Et de perdre le sens de ce qui est physique et naturel et d'être totalement pris dans une vision, une révélation. Et encore une fois, il n'est pas allé à la recherche d'une vision. Il était là simplement parce qu'il était exilé, mais il continuait à servir le Seigneur fidèlement. Le Seigneur lui a décidé de lui donner une vision. C'est très dangereux d'aller à la recherche de vision parce que le diable va vous en donner une. Parce qu'il est l'architecte de la confusion. Il faut simplement servir Dieu, aimer Jésus, et si Dieu veut vous donner une vision, il vous la donnera. Mais il y a des gens qui vont faire des jeûnes. Moi, je veux voir quelque chose. Moi aussi, je veux voir quelque chose. Parce que vous comprenez quand on donne le témoignage et que la sœur se lève et part de sa vision, toute l'église est touchée. Moi aussi, je dois pouvoir dire quelque chose. Elle n'est pas plus spirituelle que moi. Nous ne sommes pas en concurrence. Ce que Dieu donne à la sœur n'est pas pour la sœur, mais pour toute l'église. La preuve, la vision qu'il a donnée à Jean continue à nous bénir des siècles après, il continuera à nous bénir jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Nous sommes encore ce sens de la communauté. Ce que l'un reçoit de Dieu, c'est pour édifier le corps. Alléluia. Si vous laissez édifier par la vision de Jean, vous allez voir le changement dans vos vies. Nous allons écouter. Vous allez être bénis en écoutant. Vous allez lire. Vous allez être bénis en lisant. Et nous allons garder. Nous allons bénir, être bénis en gardant. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'il voit au juste? Qu'est-ce qu'il voit? Parce que dans tout ça, il nous a expliqué qui lui a parlé. Il nous a expliqué qui il est, ce qu'il faisait là. Il était le jour du Seigneur. Ça, c'est ce que je viens de lire. Et il nous a expliqué que la lettre est adressée aux 7 églises, le chiffre de la perfection, la totalité, donc adressée à l'église Abba House à Paris. Alléluia. Thank you, Lord. Nous recevons. Qu'est-ce qu'il a vu? Moi, Jean, votre frère qui est part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la témoignage, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Ce qui me fait penser au fait que la parole de Dieu nous dit que si nous souffrons, nous ne devons pas souffrir parce que nous sommes des criminels. Nous devons souffrir à cause de Jésus. Parfois, nous souffrons parce que nous parlons trop. Parfois, nous souffrons parce que nous sommes méchants. Parfois, nous souffrons parce que nous sommes radins. Et nous disons que oui, ils me persécutent parce que je suis chrétien. Non, c'est parce que tu es toi. Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises. Une instruction directe de Jésus d'écrire. À Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournais pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Fou. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine, sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes heures. Très loin de l'image de Jésus à côté de la mer de Galilée. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « N'aucun point. » Écoutez bien. « Je suis le premier et le dernier. Et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite, le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles, ce sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers, ce sont les 7 églises. » Jean vaquait à ses occupations et tout d'un coup, il a été ravi en esprit. Ayant été ravi en esprit, il a entendu une voix. Et quand il dit une voix forte, il a expliqué pour que nous puissions comprendre ce qu'est une voix forte. C'est comme le son d'une trompette. D'autres termes, ce n'est pas une voix forte comme Béard crie. C'est une voix forte comme le son d'une trompette, une voix assourdissante. Assourdissante. Et la personne qui se retourne pour dire, mais qu'est-ce qui se passe? Et il voit une vision de Jésus. Mais totalement différent de ce qu'il connaissait. Et quelle est sa réaction? Il est tellement émerveillé. Au verset 17, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Quand vous regardez Daniel, Daniel avait la même réaction. Face à un être céleste, il tombait raide comme mort. Parce que la gloire était tellement extraordinaire. Jésus est en train de marcher au milieu des 7 chandeliers. Encore une fois, le chiffre 7, la totalité et la perfection. Et ces 7 chandeliers représentaient des églises. Le chandelier, c'est ce sur lequel la lumière est posée. C'est ce qui amène la lumière et l'éclairage. Et ça, c'est l'Église. Et là, il s'agit des églises locales différentes. Nous avons vu la semaine dernière que l'Église est la colonne de la vérité. L'Église est la lumière du monde. Et Jésus, qui est la lumière, communique sa lumière à travers son Église. Et Jésus est en train de marcher au milieu de ces 7 chandeliers, les 7 églises à qui il va écrire. Ce qui est frappant aussi, c'est que Jésus n'est pas au loin en train de regarder les 7 chandeliers. Il n'est pas au ciel en train de regarder les 7 chandeliers. Il est au milieu des 7 chandeliers. C'est une image de la présence de Jésus au milieu de l'église locale. Et l'implication de Jésus dans la vie de son église sur la terre. C'est important pour nous de le saisir parce que quand nous commençons à comprendre cela, nous commençons à voir l'Église avec les yeux de Jésus. Nous commençons à voir les frères et sœurs avec qui nous sommes ensemble dans la même communauté avec les yeux de Jésus. Nous commençons à honorer l'Église comme Jésus honore l'Église, dans sa présence, en dépit de ses imperfections dont nous faisons partie. Nous nous souvenons tous que Jésus a dit, je bâtirai mon église. Donc nous avons cette vision de Jésus qui est le grand bâtisseur de l'église sur la terre avec un grand E. Mais nous n'avons pas la compréhension de l'implication de Jésus dans chaque église locale. Et le fait qu'il considère que l'Église est sa propriété. L'Église du Dieu vivant, comme nous avons lu dans Timothée. Jésus se présente. Et quand il se présente, il dit, je suis le premier et le dernier. C'est exactement la présentation qui est faite du Père. C'est exactement la présentation que Dieu fait de lui-même dans Ésaïe. le premier et le dernier. Je vous l'ai lu dans deux passages. Et Jésus se présente ici. Je suis le premier et le dernier. Et c'est ce qui nous amène, souvent dans l'Ancien Testament, vous allez voir le nom de Dieu traduit par l'Éternel. C'est l'idée de ce Dieu qui a toujours été et qui sera toujours, et tout se trouve en lui. Il est le maître du temps, commencement et fin. Commencement et fin. Et tout vient de lui et tout trouve son existence en lui. Et il n'est limité par rien ni par personne. Il est l'Éternel. Jésus déclare ici, je suis le premier et le dernier. Et c'est ce que veut dire l'alpha et l'oméga. Les premiers et les dernières lettres de l'alphabet grec. Pour que les gens puissent comprendre. C'est comme s'il disait, je suis le A et le Z. Je suis vivant au siècle des siècles. C'est important pour nous de comprendre, c'est normal pour nous de parler de la résurrection de Jésus. Mais lorsque vous parlez aux gens qui ne connaissent pas Jésus, une des choses sur lesquelles ils butent constamment, c'est cette question de résurrection. Comment est-ce que quelqu'un peut ressusciter des morts? Oh, l'apôtre Paul a été clair là-dessus. Elle dit, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. La résurrection de Jésus est ce qui a amené l'achèvement total de son œuvre qui a fait qu'il a vaincu toutes les puissances de la mort. Alléluia! Et parce que lui l'a vaincu, nous l'avons vaincu. Nous sommes de ceux qui se mettent en Jésus et qui bénéficient de tout ce que Jésus a fait. Et c'est pour cela que beaucoup de gens ne se donnent pas au Seigneur. Ils pensent que c'est trop simple. Je parlais une fois avec un ami. Il me disait, mais quand même, tu veux dire que croire en Jésus, c'est tout? Et pour lui, c'était nécessaire de faire quelque chose, lui, à se flageller, se couper, faire quelque chose qui allait le faire souffrir beaucoup. Non, la souffrance, c'est après. Mais aucune souffrance humaine, aucun exercice, aucune force humaine, aucune prière humaine, aucun effort humain ne peut mériter le salut. Parce qu'il y a des puissances qui nous tenaient captives. Et c'est Jésus qui les a cassées et les a brisées. Il y a une séparation qu'il y avait avec Dieu. Et c'est Jésus qui a enlevé la séparation. Et il est devenu la porte. Il a dit, je suis la porte des brebis. Il est devenu la porte. On entre par lui, ça va. On n'entre pas par lui, on ne peut pas accéder à Dieu. Et donc, il explique, et c'est important pour nous de le saisir. Je suis vivant. Je suis vivant. Là, il y a d'autres religions qui vont vous dire, oui, on croit en Jésus, mais il n'était pas mort. Oui, il est vivant, mais il n'était pas mort. Parce qu'ils l'ont remplacé à la croix. Ils ont mis quelqu'un d'autre à sa place. C'est faux. Oui, mais on croit en Jésus. Vous ne croyez pas en Jésus. Parce que Jésus n'était pas simplement l'homme de Galilée. Jésus, c'est celui qui est allé jusqu'à la croix. Il est allé jusqu'à la croix, il est mort, il a pris sur lui nos punitions, tout, et il a été enterré, il a été enseveli, et le troisième jour, il est ressuscité. Et c'est cela que Jésus dit ici, je suis vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant. Au siècle des siècles. Et certains croient qu'il n'est pas vivant. Oui, il a été crucifié comme un criminel. Voilà. Il n'est pas vivant. Mais nous croyons qu'il est mort. Et qu'il est ressuscité. Et qu'il est vivant. Amen. Alléluia. Et c'est parce qu'il est vivant qu'il peut nous sauver. Amen. Et c'est parce qu'il est vivant qu'il peut pardonner les péchés. C'est parce qu'il est vivant qu'il peut balayer d'un revers de la main toutes les erreurs qu'on a pu faire de nos vies. Personne d'autre ne peut faire ça. Personne, personne. Vos amis les plus intimes vont vous pardonner, mais deux ans après, mais quand même, est-ce que tu m'avais fait? Enfin, j'ai pardonné, mais c'était juste pour que... Hein? Non. Bon, écoute. Non, je t'en veux pas. Écoute, on est réconciliés, on s'aime. Mais j'ai juste pensé comme ça un jour, n'est-ce pas? Dieu, le seul qui a le droit de nous en vouloir, a décidé de ne plus jamais nous en vouloir pour les choses que nous avons faites par le passé. Comment est-ce qu'il peut faire cela? Parce que Jésus a pris notre place. Et il se révèle ici, il déclare, je suis, j'étais mort et voici, je suis vivant. Donc quand on chante vivant, vivant, mon sauveur est vivant. Ce n'est pas juste vivant, vivant. Quand je vois les gens chanter comme ça, j'ai envie de les secouer, mais tu n'as rien compris, il est vivant. Ça dit vivant, vivant, mon sauveur est vivant. Vivant pour toujours. Révélation. Révélation. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Et pour Jean qui est en train d'être persécuté, pour tous ces chrétiens qui ont été mis à mort pour leur foi, quel encouragement de savoir que ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin. Et Jésus nous a dit, non, ne craignez pas les gens qui vous persécutent, je paraphrase. Craignez celui, non, les gens qui peuvent vous tuer, mais craignez celui qui non seulement peut vous tuer, mais aussi peut vous. Exactement. Vous vous amenez dans une condamnation éternelle. Parce que la mort est physique. Elle est physique. Mais ce n'est pas la fin. Ce n'est absolument pas la fin. Et les chrétiens, en ayant peur de la mort, finissent par renier celui qui leur donne la vie éternelle. Et quand vous avez évité provisoirement la mort, un jour, elle viendra quand même. Elle viendra quand même. Le jour où elle viendra, celui que vous avez renié. La bonne perspective des choses, comprendre que Jésus a la clé. Là, les clés de la mort et du séjour des morts. Donc, il invite à écrire mais ce qu'il a vu, ce qui est et ce qui doit arriver. Ce qu'il a vu, la vision qu'il a vue, ce qui est la situation de l'Église dont il va lui parler. Ce qui est, et ça nous intéresse beaucoup, ce qui est, n'est-ce pas? Ce qui va arriver nous intéresse aussi, mais un peu moins que ce qui est. Parce que ce qui est, c'est notre situation aujourd'hui, notre marche avec Dieu, notre relation avec Dieu, ce que nous sommes en tant qu'Église. Et quand Jésus marche au milieu de nous, qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce qu'il voit? Il marche au milieu des 7 chandeliers. Et la description qu'il donne de Jésus ici, lorsqu'il parle du fait que sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, ça ressemble aussi à la description qu'il a donnée de l'Ancien des Jours. Lorsqu'il parle des cheveux que Daniel a donné de l'Ancien des Jours, lorsqu'il parle des cheveux de l'Ancien des Jours, il nous parle d'abord du fait que son vêtement était blanc comme la neige, Daniel 7, verset 9, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Glory to God. C'est extraordinaire. Qu'est-ce qu'il nous dit encore? Ses yeux étaient comme une flamme de feu, pénétrante, qui voit tout. Les cheveux blancs aussi sont le signe de la sagesse. Nous savons que Jésus avait quitté la terre, il avait 33 ans à peu près, mais cette vision de Jésus dans son éternité révèle sa grande sagesse. Ses yeux comme des flammes de feu, des yeux pénétrants qui voient tout. 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 C'est Jésus qui a les yeux comme les flammes de feu, pas le pasteur. Tout. Je vous ai raconté l'histoire. Il y a des gens qui sont nouveaux qui ne connaissent pas l'histoire d'une de mes amies, qui, quand elle venait de se convertir, elle était quand même un peu... Elle n'était pas réellement convertie à l'époque, elle était religieuse, voilà. Elle était religieuse et elle priait, mais elle avait une vie qui n'était pas très clean. Et quand elle faisait des bêtises, elle rentrait chez elle, après elle allait s'enfermer aux toilettes et se sentait condamnée, elle allait se cacher. Certains n'ont pas compris. Elle allait se cacher pour que Dieu ne la voie pas. Elle avait honte, donc elle s'enfermait dans ses toilettes. Oh, Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Je dis, mais il te voit? Te vois? Il a les yeux comme des flammes de feu. Et lorsque Daniel avait eu une vision d'un être céleste, il avait décrit ses yeux de la même façon. Il a dit son visage brillait comme l'éclair. Daniel 10:6, ses yeux étaient comme des flammes de feu. Une dimension spirituelle extraordinaire. Comme des flammes de feu. Ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli. Et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Et qu'est-ce qu'il nous a dit de Jésus ici? Oh, son visage était comme le soleil. Lorsqu'il brille dans sa force. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Vous auriez vu ça. Vous auriez tombé vous aussi. Je vous invite à méditer sur cette vision de Jésus. Glorifié. À comprendre que il a quitté sa gloire céleste. Et cette vision nous donne un aperçu de sa gloire céleste. Et il est venu sur terre comme Béa. Qui n'a pas des yeux comme des flammes de feu, dont les cheveux, en dépit de tous ses efforts, ne sont pas blancs comme la neige. Jésus est merveilleux. Nous commençons à saisir, ne serait-ce qu'un petit peu, à quel point être un être humain était une humiliation extraordinaire pour le Seigneur. Contenu dans le corps d'un être humain, limité par les faiblesses d'un être humain. Être obligé de subir l'autorité de parents humains. Il était dans le temple à 12 ans, en train d'étudier la parole, de partager la parole. Ils étaient là, ils ne comprenaient rien, ils sont venus. Mais on te cherchait! Il était, mais vous deviez savoir. Mais il ne savait pas. Et pendant tout son ministère, devoir subir l'opprobre des êtres humains. L'attaque des êtres humains. Des gens qui ne comprenaient rien. Et être suivi par des gens qui, même eux, ne comprenaient pas grand-chose. Et à la fin, même après sa résurrection, ses disciples étaient encore là. Ah, c'est maintenant que tu vas restaurer le royaume à Israël. Ça ne vous regarde pas. Est-ce que vous mesurez la bonté de Dieu? La grâce de Dieu? L'amour de Dieu? La miséricorde de Dieu? La prochaine fois que vous êtes tenté de faire, oui, mais je sais, mais moi, je ne peux pas. Je dis, oui, mais même le Seigneur veut, mais moi. Non, non, non. Fermez la bouche et mettez-vous par terre et dites, Seigneur, qui suis-je? Qui suis-je? Avec tout ce que tu as fait pour moi, je ne peux même pas commencer à concevoir ce que ça t'a coûté de devenir un être humain. Et tu as fait tout ça pour me racheter. Et maintenant que je suis racheté, qu'est-ce que tu veux? Tout ce que tu veux, c'est oui. S'il y a une prière que vous devriez faire, c'est celle-ci. Et tout le monde la comprendrait. Seigneur, je te donne un chèque en blanc. Tout rempli. Demande ce que tu veux. Tout ce que tu veux, parce que la vie que j'ai, je l'ai à cause de toi. Si je ne t'ai pas dans ma vie, quelle est ma destination finale? Quelle est la substance de mon existence? Je n'ai d'existence, de réalité vraie et de destinée éternelle que à cause de toi. La parole dit qu'il nous a rachetés. Wow, Jesus. Il l'invite à écrire. Jésus marche au milieu de son église. Et il a dans sa main 7 étoiles. Il explique que ces 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Il y a beaucoup d'encre ont coulé sur les anges des 7 églises. Parce que ce mot ange, c'est le mot dans le grec qui veut dire simplement messager. Et souvent, les messagers sont des messagers divins, mais parfois, les messagers sont des messagers humains. La parole de Dieu nous dit par exemple que Jean-Baptiste était le messager. C'est exactement le même mot que ange. Mais nous savons que Jean-Baptiste n'était pas un ange. C'était un messager humain. Et ici, beaucoup de gens croient qu'il s'agit là des messagers humains et non pas des messagers célestes. En d'autres termes, des serviteurs de Dieu. Des messagers qui apportent la parole de Dieu dans ces églises. Des sept étoiles qui sont entre ses mains, les messagers. Et il envoie, en réalité, c'est plus logique. Et il envoie un message à ses messagers et à son église dans chacune de ses villes. Et nous allons étudier à partir de la semaine prochaine ce que Jésus dit à chaque église. Et nous allons voir à quel point c'est important pour nous aujourd'hui. Il nous dit que de sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants. Combien de gens savent ce que c'est cette épée qui sort de sa bouche? La parole de Dieu. La parole de Dieu nous a dit est une épée à double tranchant. L'importance de la parole de Dieu, son visage qui brille comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Demain, bon, je ne sais pas si demain vous pourrez parce que vous n'aurez peut-être pas le soleil dans toute sa force. Mais le jour où le soleil brille, sortez, essayez de le regarder. Et vous avez une idée de ce que l'apôtre Jean a vu lorsqu'il a regardé le visage de Jésus. Le soleil quand il brille dans toute sa force. Ce qui déclare ici, c'est la pureté, la sagesse de Jésus, son autorité et sa majesté. Et sa réaction, bien sûr, c'est ce que nous avons vu. Et c'est exactement la même réaction qu'Ézéchiel a eue dans Ézéchiel 1, 28, lorsqu'Ézéchiel a vu la gloire de Dieu. La parole de Dieu nous dit, tel l'aspect de l'arc qui est dans la nuit, en un jour de pluie, ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire de l'Éternel. À cette vue, je tombais sur ma face et j'entendis la voix de quelqu'un qui parlait. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Lorsqu'on est confronté à la gloire de Dieu, on est défait. L'apôtre Jean est tombé. Et Jésus lui a dit de ne pas avoir peur. Ça, c'est merveilleux. Jésus nous dit toujours de ne pas avoir peur. Toujours. Toujours. Nos craintes point. Il n'est pas peur. Il n'est pas peur. Ça, c'est en constant. Jésus nous dit toujours de ne pas avoir peur. Et il lui a dit, écris ce que tu as vu, écris ce qui est, écris ce qui doit arriver. Et commence en lui expliquant les symboles qu'il a vus, lui expliquant ce que c'est les chandeliers, lui expliquant ce que c'est les sept étoiles. En réalité, c'est une révélation, ce n'est pas un mystère. C'est un mystère que Dieu a choisi. D'ailleurs, le mot mystère dans le Nouveau Testament, c'est le mot qui veut dire ce qui était caché qui est maintenant révélé. N'est-ce pas? Dieu veut que nous sachions des choses. Dieu veut que nous comprenions les choses de Dieu. Et c'est pour cela que Dieu s'est donné la peine de parler autant. Par tous les moyens possibles et imaginables. Il y a des histoires de vie. Il y a des poèmes. Il y a des chants. Il y a des proverbes. Il y a des lettres. Dieu communique. Et Dieu veut communiquer avec nous. Et la qualité de nos vies en tant qu'enfants de Dieu dépend étroitement de notre capacité d'écouter Dieu nous parler. Ou le choix d'écouter. De l'écouter dans sa parole. Et d'appliquer ce que nous avons écouté. L'apôtre Jean a commencé en disant, il y a une bénédiction pour vous. Vous qui allez lire. Vous qui allez écouter, vous qui allez obéir. Nous allons lire. Nous allons lire.
Amen.
Nous allons lire.
Amen.
Nous allons écouter.
Amen.
Nous allons obéir.
Amen.
Remercions le Seigneur.